Clic Clac Topette vous propose de visiter un moulin sans ailes. Bonjour Angevine, Angevin et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Clic Clac Topette, le programme de Radio G qui porte l'histoire de l'Anjou sur les ondes du 101.5 FM. Cette émission est partenaire d'Anjou Tourisme pour mettre en avant les plus beaux sites du département et croyez-moi, ils le sont tous. Voilà pourquoi nous accueillerons tout à l'heure Florent Loriou, le propriétaire du moulin de Sarré à Gênes-sur-Loire. Un moulin qui produit de la farine depuis 1143. Pendant ces 20 minutes, vous entendrez également Eva T'expliquer et Marc Belluet, le président d'une association de sauvegarde du patrimoine minier. Et enfin, nous commencerons avec l'émission Entre les pages, notre mini-série de chroniques sur Hervé Bazin. Et puisque l'histoire de l'Anjou s'écrit encore, Calixte de Nigremont aimerait qu'on aille dans l'espace, nous aussi. Billet indépendantiste à retrouver chaque samedi dans Ouest France.
Offre d'emploi où l'espace nous appartient. Maintenant que Thomas Pesquet est quelque part au-dessus de nous, à bord de la Station Spatiale Internationale, et que donc il ne peut pas nous entendre, enfin nous lire, il est temps, je crois, de lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Puisque se sont succédés à bord de l'ISS français, états-uniens, russes, canadiens, sud-africains, japonais, italiens, sud-coréens, brésiliens, belges, il serait proprement scandaleux, tout autant qu'humiliant, nous autres angevins avons un peu d'amour propre, que l'Anjou ne soit pas représenté dans l'espace. C'est pourquoi je crois opportun de lancer dès aujourd'hui le recrutement. Donc, à vous de briguer une carrière internationale très très en vue et possiblement très rémunératrice en répondant à cette annonce sans condition de sexe, d'âge ou d'origine. Certes, un physique avantageux est assurément le bienvenu, mais il s'agit d'être en orbite quelque part dans l'espace, pas de défiler sur les podiums de la Fashion Week. Compte tenu de l'exiguïté de l'ISS, une bonne hygiène personnelle et une haleine fraîche sont de beaucoup préférables à un corps de rêve. Pour le reste, pourquoi nous enquiquiner à élaborer un profil de poste, puisqu'il suffit de reprendre trait pour trait celui du jeune monsieur Pesquet. Maîtrise courante de 6 langues. Utile, ça va de soi. J'entends bien que la pratique du quechua ou de l'araméen ancien soit un atout pour briller en société ou au coin d'un barbecue mondain, mais rien ne nous garantit qu'il soit pratiqué à bord de l'ISS. Pratique de 7 sports de haut niveau. Nous concernant, celle de la boule de fort est obligatoire. La pratique de la boule de sable, sa variante Saint-Florento-Chalonnaise, serait un plus apprécié. Diplôme d'ingénieur, en la circonstance, Thomas Pesquet est ingénieur en aéronautique, mais l'Anjou ne disposant pas de ce genre de cursus, nous ne serons pas regardants. Ingénieurs en horticulture, en électronique ou en tapisserie feront aussi notre affaire. Et clairement, si en sus vous avez un brevet de pilote, c'est mieux. Voilà, il est grand temps que l'Anjou parte à la conquête de l'espace. Merci d'adresser votre candidature au journal.
Florent Loriou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes propriétaire du moulin de Sarré à Gênes avec votre frère Denis Loriou, c'est bien ça ?
C'est bien ça, c'est une entreprise de famille.
Très bien. Alors, avant même de s'intéresser aux méthodes de production artisanale de ce moulin, j'aimerais parler du moulin, du bâtiment en tant que tel, puisque votre famille en est propriétaire depuis 1908, mais ça fait bien longtemps, bien plus longtemps que ça, que des ogets récupèrent l'eau de l'Avore.
Alors les ogets, il faut peut-être dire ce que c'est à vos auditeurs. Les ogets, ce sont les bacs qui sont sur la roue du moulin. On appelle ça une roue à ogets. Donc c'est un système de roue qui fonctionne avec le poids de l'eau. Donc le moulin, en effet, est très ancien. Donc mes arrière-grands-parents sont arrivés au moulin en 1908. Mais le moulin fonctionnait quand ils l'ont repris, bien sûr. C'est un moulin qui date depuis le XIIe siècle. On remonte les traces écrites à 1143. Le moulin a complètement été reconstruit au XVIIe siècle, en 1666. C'est les plus vieux murs qu'on peut voir encore à l'intérieur. Et au cours du temps, évidemment, un moulin, ça évolue et il a évolué jusqu'à aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, le moulin de Sarré, c'est une production artisanale de farine de plusieurs types, il me semble. C'est aussi une boutique avec vente de pain, vente de farine. Le pain, c'est le mercredi ?
Alors le pain, c'est le mercredi et le vendredi. On fait du pain à l'ancienne, toutes sortes de pain, du pain à l'épeautre, des baguettes, voilà. Pain vraiment fait à l'ancienne, avec nos farines évidemment, des farines faites à la meule de pierre.
Alors justement, à l'ancienne, ça veut dire quoi une fabrication, une production de farine à l'ancienne, les meules de pierre, ça consiste en quoi ?
Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors souvent les gens ne font pas la différence entre un moulin et une minoterie. Alors la plupart des farines qu'on trouve maintenant dans les commerces sont faites dans les minoteries. Une minoterie, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on écrase du grain avec du métal.
D'accord.
Avec des rouleaux métalliques, avec un système qu'on appelle les cylindres. C'est des cylindres qui tournent, qui écrasent le grain. C'est un système qui est apparu à la fin du 19e siècle, début 20e. Et nous, à Sarrebe, on est vraiment spécialisés. On est un petit peu le village gaulois qui est résistant. Et on produit encore nos farines en écrasement uniquement à la meule de pierre.
Un expert comme vous affirmera que ça se ressent sur le goût de la farine, des farines.
Alors, oui, en effet. Alors, le fait d'écraser à la meule de pierre, c'est que c'est un système assez lent. Par rapport à une minoterie. Une minoterie, ça tourne beaucoup plus rapidement. Mmh. Alors le fait de tourner lentement avec de la pierre, il y a très peu d'échauffement. Et lors de l'écrasement, eh bien, on ne brûle pas le germe de la graine et on va garder aussi les arômes de la graine. Ce qui donne des farines qui sont très parfumées. Des farines aussi qui vont avoir des qualités nutritives très intéressantes.
D'accord, et on fait tout type de farine, de l'épeautre, du blé, ça...
Avec une meule, oui, on peut écraser toutes sortes de graines. Donc chez nous, on écrase du blé, évidemment. On écrase aussi du sarrasin, du seigle, de l'épeautre, du petit épeautre, maïs, voilà.
Alors on sent l'opposition que vous faites, Florent Loriot, avec les minoteries qui sont plutôt industrielles. D'un point de vue histoire, ça s'est surtout développé après la Deuxième Guerre mondiale, hein, ces minoteries, j'imagine.
Alors avant même.
Même avant,
ouais, ouais. C'est plus au début du XXe siècle. Hein. Là, quand le système de minoterie était bien au point, c'est là où on a construit des minoteries.
Ouais.
Ou alors on transformait certains moulins existants en minoterie. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, où les petits moulins ont commencé à disparaître dans les campagnes. Mmh. Parce que la minoterie est un système beaucoup plus productif. Donc, les petits moulins qui, souvent, faisaient quelques quintaux comme ça, ne pouvaient pas suivre, n'étaient pas compétitifs. Et souvent, les petits moulins fermaient leurs portes.
Justement, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi le moulin de Sarré est l'un des derniers en France à produire encore artisanalement la farine avec, en pierre de meule ?
Parce que mon arrière-grand-père, donc au début du XXe siècle, avait transformé le moulin. Il s'était modernisé, hein, comme on faisait à l'époque. Il avait transformé le moulin en minoterie. Il avait retiré une partie des meules et il avait installé ce système de minoterie avec les cylindres. Il était devenu minotier au début du XXe siècle et c'est resté comme ça, une minoterie jusqu'en 1990.
Puisqu'on en parle chez Clic Clac Topette du moulin de Sarré, c'est parce que c'est historique, culturel, très intéressant, mais aussi parce que nos auditeurs peuvent venir le visiter de temps en temps.
Alors en effet, tout l'été, le moulin est ouvert à la visite, en juillet et août. Donc il y a des visites le mardi, le mercredi et le jeudi, tous les après-midi. Un départ de visite à 15h, à 16h et à 17h. Ce sont des visites guidées qui durent environ entre 45 minutes et 1 heure.
D'accord, et pour se tenir au courant des créneaux d'ouverture, à partir de quand ça commence, on peut aller sur un site, j'imagine ?
Sur le site du moulin, voilà, moulindesarré.fr, ou alors sur la page Facebook aussi du moulin.
Très bien. Alors avant de vous laisser le dernier mot, Florent Loriot, entre nous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous mangez du pain de chez Lidl ou de Super U ?
Je ne vais pas dénigrer la farine de minoterie. C'est un système de production qui est différent de la farine de meule. Bon, souvent, les gens, quand ils goûtent quand même à une farine faite à la meule de pierre, ils ont du mal à revenir à une autre.
Très bien. Bon, je ne suis pas un expert en pâtisserie, mais je promets de repartir de là avec un pain pour au moins goûter la différence. Je rappelle du coup, Florent Loriot, que vous êtes propriétaire du moulin de Sarré à Gênes-sur-Loire avec Denis Loriot, du coup.
Voilà.
Merci beaucoup, Florent, d'être venu chez Clic Clac Topette.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Effectivement, je confirme, le pain était très bon. Alors ça, en plus de 900 ans d'histoire des pandémies, le moulin de Sarré a dû en connaître. C'est pas le SARS-CoV-2 qui va l'inquiéter. D'ailleurs, elle va t'expliquer de suite l'histoire des pandémies.
T'inquiète, elle va t'expliquer.
Salut Eva.
Coucou papa.
Allez, on passe au gros sujet brûlant.
je ne vois pas.
Arrête, on ne parle que de ça, tout le temps. Nous sommes rentrés dans une grande époque de pandémie.
La pandépoque.
Ça fait un peu nom de Pokémon.
Eh oui, effectivement, on en parle beaucoup. Cette pandémie, la première véritable de notre ère de technologie moderne, est forcément celle sur laquelle il y aura le plus de communication, mais...
Mais
ça n'en fait pas la pandémie la plus importante de l'histoire, loin de là.
Ah, c'est pas l'impression que ça donne, hein. Et pourquoi ce mot d'ailleurs, pandémie ?
Lorsqu'un agent pathogène, virus ou bactérie se propage dans une population, on utilise trois mots différents selon l'étendue de la contagion. Pour quelques cas, on parlera de flambée, pour une région ou un pays, on parle d'épidémie, et de pandémie quand cela touche un ou plusieurs continents.
Et il y a déjà eu de grandes pandémies comme celle-ci dans l'histoire ?
Oh que oui ! Nous savons que les épidémies sont apparues peu après la sédentarisation et la constitution des premières cités, concentrant beaucoup de populations. La première pandémie dont nous ayons une documentation précise est celle dite de la peste d'Athènes, qui, partie d'Afrique de l'Est, y fera plus de 200 000 morts entre 430 et 426 avant notre ère, précipitant certainement le déclin de la cité grecque.
Il y a près de 2500 ans ?
Oui, et l'histoire est ensuite remplie de tristement célèbres pandémies plus meurtrières les unes que les autres. La peste d'Antona, apparue au Moyen-Orient, aurait fait près de 10 millions de morts dans l'Empire romain entre 166 et 189, l'affaiblissant considérablement.
Toujours des pandémies de peste d'ailleurs ?
Et non. Là, en l'occurrence, il s'agissait très probablement d'épidémies de variole. La première grande pandémie de peste bubonique attestée est celle de Justinien, en 541, du nom de l'empereur romain de l'époque, qui aurait fait plus de 25 millions de morts.
C'est celle-ci qu'on appelle la fameuse peste noire ?
Non, papa. La peste noire, appelée aussi la grande peste, partie de Chine autour de 1340 et arrivée en Europe en 1347. On estime qu'elle fit jusqu'à 75 millions de morts, 40 millions rien qu'en Europe, réduisant entre un tiers et la moitié de la population européenne.
La moitié de... Mais bon, c'était le Moyen-Âge, quoi.
Oh, c'est quoi ce cliché d'un Moyen-Âge sombre, sale et rempli de maladies ? Les pandémies vont se succéder. Les maladies venues d'Europe feront disparaître des dizaines de millions d'Amérindiens à partir de 1492. Le choléra et la tuberculose firent des ravages au 19e et 20e siècle. La grippe espagnole, à l'origine de notre grippe saisonnière, aurait fait 100 millions de morts entre 1918 et 1920. Et encore plus proche de nous, la grippe asiatique, tuant entre 2 et 3 millions de personnes dans le monde, dont 100 000 en France en 1956 et 1957.
Attends. En France, il y a 60 ans, une grippe a fait autant de morts que le Covid ?
Et oui ! Sans sous-estimer l'importance de la pandémie actuelle, cela nous permet de constater l'évolution de nos sociétés face à la maladie, à la mort.
Ok, mais aujourd'hui on est d'accord que c'est LA pandémie meurtrière.
Je vais encore te contredire, mais on en est loin.
Comment ça ?
Aujourd'hui, et depuis les années 60, nous en sommes à la 7e pandémie de choléra qui fait, selon l'OMS, entre 2 et 4 millions de morts chaque année, essentiellement en Afrique.
Mais on en parle si peu ?
Et oui, tout comme la tuberculose qui fait quant à elle près de 2 millions de morts chaque année, alors qu'elle peut être soignée grâce à des antibiotiques. Et il ne faut surtout pas oublier le sida, qui fait encore près d'un million de morts par an. Oui, oui, il faut toujours se protéger.
Alors là, c'est vrai que tu m'as un peu scotché. C'est passionnant, ça permet de relativiser, mais ça laisse songeur. Hein. Et puis, c'était hyper triste aujourd'hui, t'as pas quelque chose de plus joyeux ?
Un sujet plus joyeux ? Ok, t'inquiète, elle va t'expliquer.
Marc Belluet est l'un des membres fondateurs du tout nouveau Réseau des acteurs du patrimoine en Anjou Bleu, le RAP. Il est aussi le président d'une association de sauvegarde du patrimoine minier dans le Segréen.
Ça s'appelle l'Association des mines de fer de l'Anjou. Alors, ça se situe sur le site du Bois 2, donc la commune de Nioiseau. Hein, ça a été créé il y a 6 ans maintenant, parce que le site était laissé à l'abandon. Et il se trouve qu'il fallait bien quelqu'un à l'initiative. Ça a été moi, mais depuis, ce n'est plus que moi. Il y a toute une équipe. Et on a décidé de le sauvegarder, le site, et de le mettre en valeur. On a créé notamment une exposition de plein air qui s'appelle « Sur les pas de mineurs de fer ». Qui a déjà accueilli 25 000 visiteurs. On a un site internet, il suffit de taper mine de fer de l'Anjou.fr.
Et vous, Marc Belluet, en tant que personne attachée au patrimoine, notamment du Segréen, de l'Anjou Bleu, vous avez créé, avec d'autres acteurs du patrimoine dont on a reçu les coups de fil précédemment, le RAP. Dans quel but ?
On s'est dit que ce serait bien que, qu'il y ait peut-être une cellule qui s'occupe du patrimoine, et à 4 personnes de mémoire au départ. On en a parlé un peu autour de nous. On a rencontré des acteurs intéressés par le patrimoine, et une équipe de 12 s'est constituée autour d'une association qui vient d'être créée, qui s'appelle donc le Réseau des acteurs du patrimoine, le RAP. C'était le but de l'opération, c'était de lancer ce mouvement-là qui demande qu'à s'étoffer. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que des dizaines d'amoureux, de passionnés du patrimoine nous rejoignent.
Vous avez quelles attentes, vous, par rapport à ce RAP concrètement ?
Moi, concrètement, la partie qui m'intéresse le plus sur le patrimoine, j'avoue que c'est le patrimoine minier, et sur la région, mais bien entre le granit, l'ardoise, le fer.
Sauvegarder ce qui reste, les bâtiments et les vestiges de ce passé, quoi.
Ben, si possible, et les mettre en valeur. Là où c'est possible, on garde le site. Quand c'est pas possible, au moins qu'on garde l'idée. Vous voyez, à Bécon-des-Granits, les sites ne sont plus visitables en tant que tels, ils appartiennent à des particuliers, mais il y a un musée.
Très bien. En tout cas, le message est bien passé, bien entendu, votre point de vue par rapport à ce que vous souhaitez faire avec le RAP. Restons-y dans le segréen, enfin presque, avec le début de notre mini-série de chroniques sur la vie d'Hervé Bazin, cet auteur animé et réalisé par Luc de l'émission Entre les pages.
Un Bazin sinon rien, une micro-série produite par l'émission Entre les pages, épisode 1, une enfance. Hervé Bazin n'est pas né en 1948 avec la publication de Vipère au Point, non. Il est né le 17 avril 1911 dans cette bonne ville d'Angers. Et de sa naissance, il en parlait comme ça lors d'une interview en 1994. « Je suis né à Angers, rue du Bellay. J'y suis resté un quart d'heure. Ma grand-mère est venue nous chercher l'un après l'autre. J'ai commencé ma vie avec une mère que j'adorais et qui était ma grand-mère. Malheureusement, ma grand-mère est morte trop tôt, sans quoi Vipère au Point n'aurait jamais existé. » Son vrai nom, c'est Jean-Pierre Hervé Bazin. Le nom de famille est bien Hervé Bazin, celui d'une famille bourgeoise très connue dans le centre-ville d'Angers. Sa mère Paul, celle que l'on confond avec Folcoche, ne sait pas s'occuper des nouveau-nés. Aussi la grand-mère, Marie Bazin, va s'occuper des trois enfants. Les parents habitent rue du Bellay, en plein centre-ville, pas loin de la place du lycée. La grand-mère habite rue du Temple, tout près de la gare Saint-Lô, à moins de 2 km. Et pourtant, les trois garçons ne voient que très rarement leurs parents. Ils passent des vacances merveilleuses dans la propriété du Paty, à Maran, dans le Segréen. La Première Guerre mondiale survient. Le père, Jacques, est volontaire pour le front. Il y combat, mais tombe malade. Les autorités françaises, inquiètes pour sa santé, lui proposent en 1917 un poste à Shanghai. Et les deux parents partent en Chine, laissant leurs trois garçons sous la responsabilité de la grand-mère. En 1919, Marie Bazin, la grand-mère adorée, décède. Les parents ne vont rentrer en France qu'en 1921. Pour Paul, quitter la Chine et cette vie facile, sans aucune obligation matérielle, est un déchirement. Jean-Pierre Hervé Bazin, le futur Hervé Bazin, lui, a 10 ans. Toute la famille s'installe rue du Temple dans la maison de la grand-mère, mais un an après, le père embarque tout son petit monde dans la propriété du Paty. Le Paty, c'est grand, 900 mètres carrés et sans eau, sans gaz et sans électricité. Mais il faut afficher son rang dans cette campagne segréenne et il est plus facile d'être roi à Maran que prince à Angers. Paul, la mère, n'est toujours pas capable d'avoir des sentiments maternels. La perte de la vie facile à Shanghai est pour elle un traumatisme insurmontable dont elle ne se remet pas. Fin de la première partie. Un Bazin sinon rien, une réalisation de Entre les pages. Musique, Ghislaine Valdivia au violoncelle sur l'ouverture de Cachemire de Led Zeppelin par l'Orchestra Sinfonica de Chancey.
Chronique disponible dans l'onglet Podcast Plus du site de Radio G. Clic Lactopette continue sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et en podcast téléchargeable sur radio-g.fr. Bientôt la fin de saison et bientôt de beaux cadeaux à gagner pour vous. Je vous en dis plus la prochaine fois, c'est promis. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Clic Lactopette pour des balades historiques en Anjou, Beaugés, Beaufort, Segré et bientôt de nouvelles qui vont arriver à partir de septembre. Prenez soin de vous, rendez-vous dans 2 semaines lundi à 13h sur le 101.5 FM de Radio G. Je vous dis topette !